Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre complément à la grande étude des prophéties que j'ai fait il y a environ 5 ans, que vous pouvez trouver sur www.bibleexplique.ch. Ceci est donc un petit complément. Nous arrivons au numéro 5 et le titre sera « Une persécution démente ». Car il y aura un esprit de persécution qui est à l'œuvre. En effet, un temps de persécution tel que l'humanité n'en a jamais vu auparavant va donc avoir lieu. Cette persécution se développera contre tous ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ, et elle se dressera tel un monstre à plusieurs têtes qui sortiront de la mer. Elle va donc apparaître et se développer d'abord de manière lente et subtile, à une époque où la liberté religieuse semble être à son apogée. Elle se répandra ensuite à travers les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le monde entier, et deviendra comme une sorte de démence. Un esprit antéchrist entrera dans le cœur de certains hommes, occupant surtout des hautes fonctions dans les gouvernements et les systèmes judiciaires, et les fera s'engager dans des manœuvres légales destinées à harasser les églises, à harasser les missionnaires et les pasteurs, surtout les pasteurs indépendants. Il est à peu près certain que cet esprit a déjà commencé à des programmes contre des programmes missionnaires officiels, on peut bien le dire, et contre tous les programmes évangéliques diffusés à la radio et à la télévision, ainsi que de toutes les sociétés missionnaires qui seront si étroitement contrôlés, constamment interrogés et harcelés, qu'ils en viendront à ne plus vouloir s'implanter n'importe où. Une super-église mondiale va donc se former par l'union des protestants libéraux œcuméniques et des catholiques romains qui se donneront la main politiquement, provoquant ainsi l'avènement d'une des plus puissantes forces religieuses du monde. Cette super-église ne sera spirituelle que de nom. Elle fera librement usage du nom de Jésus-Christ, alors qu'en fait, elle revêtira dans bon nombre de ses activités un caractère totalement antéchrist. Cette puissante union d'Église sera profondément engagée dans l'action sociale, dans les grandes œuvres de charité, telles qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les ouragans, les terribles typhons de la dernière avec Maria, ainsi que le tremblement de terre gigantesque au Mexique, eh bien, ces dirigeants feront de grandes déclarations sur la nécessité de pourvoir aux besoins de l'homme, et ils lanceront un appel en vue d'un nouvel engagement de l'Église dans l'action sociale, dans la vie politique et les affaires du monde. Au moment même où il apparaîtra que le mouvement œcuménique tend à disparaître, un soudain enchaînement d'événements mystérieux préparera le terrain pour la réalisation de cette union. Rome insistera dans ce sens et recevra de nombreuses concessions de la part des leaders protestants œcuméniques. Dans cette union, le pape sera considéré davantage comme un leader politique que spirituel. En échange, les leaders protestants du mouvement œcuménique insisteront et se verront accorder certaines concessions de la part de Rome. Il ne leur sera pas demandé de regarder le Saint-Père comme étant le chef infaillible de l'Église et du monde. En conséquence, ils accepteront son commandement politique sans toutefois reconnaître son rôle de successeur de l'apôtre Pierre, comme ils appellent de Saint-Pierre. En aucune façon, je ne suggère ici que le pape ou quelques autres groupes engagés dans cette super-église s'adonnera à des activités antéchrist. La Bible a beaucoup à dire sur cela, mais il ne m'appartient pas présentement de me livrer à des spéculations à ce sujet. Cependant, je vois venir quelque chose qui m'effraie. Je vois une armée de professionnels envahir cette super église et en occuper les postes les plus importants. Beaucoup d'entre eux seront irréligieux, surtout irréligieux. Ils seront partisans, évidemment, de l'antéchrist. Ils seront obsédés par l'idée que cette super-église doit devenir une puissance politique suffisamment forte pour faire pression sur tous ceux qui s'opposent à son action. Tandis que ceux qui occuperont les postes les plus importants parleront de miracles, d'amour et de réconciliation. Les mercenaires engagés à leur service harcèleront et persécuteront les organisations religieuses qui refusent leur autorité. La formation de cette super-église, il faut bien l'appeler ainsi, se fera au début de manière très cachée. Elle commencera par des programmes d'études et de recherche faits en coopération et de manière non officielle. D'autres programmes de coopération seront entrepris sans engagement légaux ou obligatoire de la part des protestants et des catholiques. Mais les leaders libéraux protestants de l'Angleterre et des États-Unis se joindront aux théologiens libéraux catholiques de l'Europe afin de parvenir ainsi à un miracle œcuménique mondial. La réalisation de la fusion légale et politique de ce mouvement est encore assez distante, mais la base officieuse de l'Union est déjà en train de s'établir. Cette super-église va accepter en son sein tels que les homosexuels, tels que les lesbiennes, les multisexes et les transsexes de toutes les sortes, sous prétexte de vouloir les comprendre. L'amour homosexuel sera justifié par la direction de cette Église unie. Il ne sera plus simplement accepté, mais même encouragé. Des pasteurs homosexuels seront ordonnés et des postes importants leur seront confiés dans cette Église unie. Ils seront présentés comme étant une nouvelle race de pionniers venus introduire de nouvelles conceptions de l'amour et de l'évangélisation moderne. Dans presque toutes les grandes villes des États-Unis et du monde, des églises d'homosexuels qui s'attacheront à pourvoir exclusivement aux besoins de leur propre espèce, avec la reconnaissance et le soutien total de la religion officielle, il sera distribué de la littérature aux classes de l'école du dimanche, expliquant aux enfants et aux adolescents que l'homosexualité est une forme normale et acceptable de sexualité. Je vois venir un jour encore plus tragique, mais je ne suis pas du tout le seul, je dois quand même vous le dire. Alors un jour encore plus tragique va arriver, où la majeure partie des homosexuels ne rechercheront plus l'aide de l'Église. Ils seront même justifiés par la super-Église et ils seront admirés en raison de leur courage, la gay pride gigantesque dans toutes les villes et de leur volonté d'être différents des autres. Cette super-Église s'adaptera aux faiblesses de l'humanité et s'efforcera de réconforter le genre humain aux prises avec le péché. Les complexes de culpabilité seront blâmés et considérés comme étant l'œuvre de prédicateurs absolument vieux jeu qui condamnent le péché et qui parlent contre les faiblesses de ceux qui cherchaient auparavant de l'aide et des conseils. De nombreux efforts seront donc entrepris dans le but, évidemment, d'enseigner aux hommes à vivre avec leurs problèmes et en fait à jouir de ces faiblesses comme si elles étaient des véritables dons de Dieu. Ça, c'est un blasphème. Dans certaines de ces églises, le fait de danser nu, vous avez bien entendu, de danser nu, sera présenté comme une forme artistique d'adoration. Les hommes se mettront à adorer la créature. Plutôt que le Créateur, et Dieu se verra obligé de livrer ses adorateurs à leurs propres péchés. Beaucoup d'hommes seront alors livrés à des esprits réprouvés, ça veut dire des démons et des super-démons, et se verront atteints d'une nouvelle maladie mentale qui ne pourra être guérie par aucun traitement. La nudité présentée en public, sous quelque forme que ce soit, et l'adoration de la créature sera absolument devenue normale. La nudité dans l'Église ne restera pas impunie devant Dieu, jamais. La Sainte Bible déclare très clairement que cette forme d'adoration mène inévitablement à de sérieux problèmes mentaux. Bien que la danse nue ne se répandra pas beaucoup, elle n'en sera pas moins acceptée par de nombreux responsables religieux comme étant l'expression légitime d'adorateurs qui s'efforcent d'atteindre la beauté de l'âme par le moyen de la beauté des formes humaines. Cette super-église reconnaîtra officiellement certaines pratiques occultes. Il existe déjà des groupes religieux dans l'île de Haïti qui ont incorporé certains aspects du culte voodoo ou vaudou dans leur propre culte. Et dans le futur, des comités d'études seront constitués dans le but de démystifier le diable et de lui redonner une image à la fois plus absurde et inoffensive surtout, qui ne pourra plus susciter la crainte. Dans certaines des églises les plus respectées et les plus riches du pays, des séances d'occultisme remplaceront les réunions de prière. Un nombre croissant de pasteurs et de prêtres seront intrigués par les prétentions surnaturelles des groupes spiritualistes et sataniques. Malheureusement, les pasteurs et certains prêtres qui n'ont jamais été très près de Dieu s'approcheront très près du diable, surtout. Satan apparaîtra donc comme un ange de lumière pour tromper, si cela était possible, même les élus de Dieu. Les prêtres de Satan eux-mêmes apparaîtront-ils des anges de lumière et tenteront de répandre dans les rangs de l'Église la nouvelle selon laquelle Satan n'est pas du tout un ennemi, mais un véritable ami. La super-Église n'acceptera jamais entièrement les pratiques occultes, mais la prénologie, la chiromancie, les diseuses de bonne aventure et les horoscopes seront généralement très respectés. Une grande union surnaturelle, on peut bien le dire, rassemblera tous les vrais disciples de Jésus-Christ qui seront unis ensemble et se rassembleront uniquement par le Saint-Esprit et la confiance mutuelle qu'ils ont en Jésus-Christ et en sa sainte parole. Cette Église surnaturelle, composée de personnes qui croient en la Sainte Bible, deviendra une sorte de communauté clandestine et inclura des catholiques et des protestants de toute dénomination. Elle unira en son sein jeunes et vieux, noirs et blancs, et des gens de toutes les nations. Tandis que la super-Église mondiale gagnera en puissance politique, cette Église invisible et surnaturelle verra augmenter sa puissance spirituelle de manière extraordinaire. Cette puissance lui viendra comme une conséquence directe de la persécution. La persécution, la souffrance intense et souvent insensée qui vient sur la terre attirera ces chrétiens plus, beaucoup plus près de Jésus-Christ. Et il ne sera plus fait tellement état des dénominations. Toi tu es de l'Église évangélique, toi tu es de l'Église baptiste et j'en passe. Donc, je répète, il ne sera plus fait tellement état des dénominations que de la réalité du retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rassemblera et unira des gens de toute nation et de toute confession de foi. Voyez-vous, bien que cette Église surnaturelle existe déjà à l'heure actuelle, il faut bien le dire, elle deviendra dans les jours à venir de moins en moins visible. Au fur et à mesure que la persécution se fera plus intense, ce corps de croyants deviendra plus radical dans ses efforts en vue de l'évangélisation. Cette Église invisible recevra une onction surnaturelle et la puissance du Saint-Esprit pour continuer à prêcher l'Évangile jusqu'à ce que les extrémités de la terre, on peut bien le dire, soient atteintes. Donc c'est important. Et on peut dire que les catholiques charismatiques qui se considèrent comme étant les membres de cette Église surnaturelle et invisible, ils subiront croyez-moi, une persécution particulièrement sévère, car l'Église catholique romaine va bientôt retirer le tapis rouge, ce tapis rouge de dessous les pieds des catholiques qui parlent aujourd'hui en langue et qui accueillent favorablement les enseignements évangéliques et pentecôtistes concernant le Saint-Esprit. Des pressions politiques importantes atteindront certains prêtres dans le but d'éteindre ce feu. Attendez-vous donc à voir le pape. Attendez-vous à voir le pape prendre une position plutôt négative envers le ou les mouvements charismatiques qui se développent au sein de l'Église catholique. La lune de miel va bientôt se terminer. Les magazines catholiques vont commencer à parler contre ce mouvement qui se développe dans leur propre rang et réclamer une véritable purge. Celle-ci commencera lentement, puis elle prendra rapidement de l'ampleur, jusqu'à ce que tous les catholiques qui appartiennent à ce mouvement affrontent une réelle persécution venant du sein même de leur propre Église. Le mouvement charismatique qui se développe au sein de l'Église catholique deviendra donc si puissant et si important que certains leaders qui ne comprendront pas du tout sa signification véritable, eh bien, ils commenceront à le considérer comme étant une véritable menace. Alors il se peut que plus de 500 000 personnes fassent partie, d'ici très peu, de ce mouvement catholique charismatique. Et ceux qui n'y adhéreront pas l'accuseront de ne pas s'occuper des questions d'ordre social et de trop négliger les traditions de l'Église. Alors ils seront également accusés de se détourner surtout de la Vierge Marie et de nier l'autorité du pape. Que chaque catholique donc, se vantant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, se prépare à la persécution. Elle ne surviendra pas du jour au lendemain. Mais, il est plus que certain que le jour vient où chaque catholique qui a expérimenté la Pentecôte devra donner la preuve de ce que ce baptême signifie pour lui. Certains seront comme forcés de retourner à la tradition et laisseront cette expérience s'endormir. Du reste, beaucoup d'autres commenceront à découvrir qu'ils ont davantage d'amour fraternel, de communion et de relations spirituelles avec d'autres protestants et catholiques qui ont centré leur vie autour de la personne unique de Jésus-Christ et de la plénitude du Saint-Esprit. Du reste, beaucoup ne me croiront pas. Mais malgré tout, je vois venir le jour où de nombreux protestants et de nombreux catholiques devront sortir carrément du milieu d'eux. Ces nouveaux chrétiens ne s'appelleront plus catholiques ou protestants, mais ils s'appelleront simplement chrétiens renouvelés. On a été sauvés, comme je l'ai été, et j'ai été, et ils ont été rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Leur communion ne sera plus fondée sur l'expérience du parler en langue, mais uniquement sur le Père, Dieu le Père, et son Fils Jésus-Christ. La persécution des catholiques charismatiques par les autorités de l'Église n'atteindra pas le réveil dans cette Église. et surtout ne pourra jamais éteindre, c'est ce que j'aurais voulu dire. Alors je répète la phrase pour qu'elle soit bien comprise et pas mal comprise. Voyez-vous, quand on parle trop vite, on peut des fois avoir, surtout à passer 90 ans, la langue qui fourche. Alors, la persécution des catholiques charismatiques par les autorités de l'Église n'éteindra pas le réveil dans cette Église. Bien au contraire, le ministère du Saint-Esprit sera accompagné de grands miracles et le nombre de catholiques qui se joindront au groupe de, on peut dire, du renouveau, augmentera sous le coup de la persécution. L'accent sera de moins en moins placé sur le parler en langue, et au contraire, on verra se développer un ministère de fraternité spirituelle véritable, fondé sur un enseignement vraiment strictement biblique solide, un véritable amour mutuel et une réelle compréhension envers les autres disciples de Jésus-Christ. Cela deviendra donc comme une sorte de prêtrise spirituelle pour les laïcs qui voudront aider leurs frères et leurs sœurs et porter les fardeaux les uns des autres. Actuellement, règne une très grande liberté pour la prédication de l'Évangile à la radio et à la télévision. Jamais les portes n'ont été si grandes ouvertes pour les ministères chrétiens dans ce domaine. Il y a des chrétiens qui possèdent même leur propre station de radio et de télévision et qui peuvent librement prier pour les malades, faire des collectes et propager l'Évangile de, on peut dire, de toutes les façons qu'ils jugent convenables. Mais attention, oui, attention, la persécution et le harcèlement approchent. Il y a dans l'air un vent contraire. Les programmes d'évangélisation par les ondes vont devenir la cible préférée de forces sataniques qui sont décidées à les chasser des voies aériennes. Déjà, dans les coulisses, s'établit un système d'évaluation de tous les programmes religieux diffusés à la radio et à la télévision. Les dirigeants des églises libérales tenteront d'établir un tableau et de prendre en main tout ce qui a trait à l'organisation des retransmissions religieuses sur les ondes, mais aucun programme ne pourra alors être diffusé sans leur approbation. Le résultat en sera un évangile inoffensif, sans Christ et sans, surtout, sans reconnaître que nous sommes des pécheurs, sans repentance, qui ne choquera plus personne. Les portes qui sont actuellement grandes ouvertes vont être doucement mais sûrement refermées. Les stations de radio et de télévision chrétiennes devraient se préparer d'ores et déjà à la persécution et au harcèlement. Des forces impies et l'antéchrist se préparent actuellement à créer des problèmes à certaines stations religieuses et à certains évangélistes. Je vois Satan essayer d'embourber ses programmes et ses stations dans les paperasseries administratives, dans les procédures légales et dans les problèmes d'impôts. Il va utiliser tous les moyens qu'il a à sa disposition pour éloigner les programmes chrétiens des moyens de communication tels que la radio et la télévision. Oh, chers amis, c'est sérieux. Pendant qu'il fait jour, encore aujourd'hui, car voyez-vous, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Nous vivons encore maintenant une époque où il fait jour et où règne la liberté et les bonnes occasions. Mais la nuit du harcèlement et de la persécution n'est pas loin. Quand elle arrivera, il ne restera plus que quelques ministères chrétiens, sinon aucun, à la radio et à la télévision. Attendez-vous donc à voir Hollywood augmenter ses attaques contre la véritable religion, telle que par le moyen d'un plus grand nombre de films engagés. Le film, par exemple, « Marjoie », constitue la tentative la plus effrontée effectuée par les forces sataniques dans le but de réduire au silence et de ridiculiser toute religion qui parle du sang de Jésus-Christ. Les prédicateurs de réveil et les pasteurs évangéliques continueront à être catalogués comme étant des véritables charlatans, des tricheurs, des comédiens qui sont simplement assoiffés d'argent. De plus en plus, de producteurs de films tenteront de dénigrer les valeurs morales puritaines, entre guillemets, et les églises et les pasteurs évangéliques subiront des attaques particulièrement sévères, tandis que l'occultisme et la sorcellerie seront glorifiés et feront sensation. Il y a déjà des intellectuels sophistiqués, oh oui, qui prêchent, croyez-moi, qui prêchent dans des films et qui attaquent les chrétiens du réveil. Une sorte de snobisme athée constituera la motivation principale d'une nouvelle génération de producteurs de films, et cela les conduira à une suite d'attaques presque maladives qui seront adressées contre toute religion qui empêche l'homme de satisfaire tous ses désirs hédonistes. Voyez-vous, les comédies télévisées se montreront de plus en plus hardies pour ce qui est de se moquer de Jésus-Christ et de ses véritables disciples, et leur porteront coup sur coup dans le but de réduire au silence les traditions les plus sacrées. À la fin, ces comédies se termineront par des paroles vulgaires et par n'importe quoi. Les programmes deviendront absolument blasphématoires et des millions d'incroyants pourront s'asseoir devant leur appareil de télévision, devant leur internet, leur smartphone, etc., pour rire et de se moquer pendant que des sujets autrefois considérés comme sacrés seront tournés totalement en ridicule. Je ne suis pas du tout en train de suggérer l'idée que les auteurs des comédies télévisées s'unissent actuellement pour former une sorte de complot contre Dieu et la religion. Ce que je perçois, c'est que certains auteurs essayent de se mesurer les uns aux autres pour voir lequel d'entre eux sera capable de réduire au silence le plus efficacement possible les traditions et les enseignements sacrés. Ce sera donc une attaque très subtile qui sera dirigée contre les enseignements de Jésus-Christ et qui sera camouflée sous le couvert des comédies. Nous voyons déjà certaines comédies, et c'est vrai, qui se moquent totalement de personnalités comme Catherine Kuhlman, de Billy Graham, d'Oral Roberts et de beaucoup d'autres, des célébrités évangélistes. Et plus tard, eh bien oui, certains iront même à se moquer totalement du pape. Donc, le pire est encore à venir. C'est comme le typhon le fameux typhon de Maria tout récemment, tel est le tremblement de terre au Mexique. Mais c'est rien contre ce qui va encore arriver. Si vous avez l'occasion, moi je ne possède pas Internet, mais si vous possédez Internet, vous pouvez trouver 3xW, Bible explique en un seul mot, .ch, toute une série, au moins presque une centaine de CD, sur les prophéties des temps de la fin. Car nous sommes, hélas, au temps de la fin. Voyez-vous, la comédie qui reflétera le mieux l'esprit de l'Antéchrist sera passée par les antennes de la télévision, et cela sans la moindre opposition. Et en dépit des décisions prises récemment par la Cour suprême, nous en arriverons quand même à devoir payer des très lourds impôts. Et cela commencera sous la forme d'une taxe insignifiante, dite de dommage, mais qui prendra rapidement des proportions gigantesques et qui amènera certaines églises, que vous le croyez ou pas, et certaines sociétés missionnaires indépendantes, carrément au bord de la faillite. Les affaires sous la direction des églises seront les premières à être taxées. Ce sera ensuite le tour de toutes les propriétés appartenant aux églises, y compris les presbytères. De très sérieuses batailles devant la Cour suprême nous attendent, et il se peut même que certaines décisions en soient annulées. Il se peut que le fisc devienne un jour l'une des plus puissantes armes dirigées contre l'Église. Les agences gouvernementales vont bientôt commencer à fouiller les registres privés de presque toutes les organisations religieuses à but non lucratif. Celles qui ne voudront pas se plier aux lignes de conduite rigoureuses contenues dans les registres seront obligées de fermer leurs portes. Satan va donc essayer de saboter l'enseignement chrétien, et ce, de trois manières. Oh oui, de trois manières bien distinctes, croyez-moi. Les écoles, les collèges et les universités chrétiennes, ils n'échapperont pas à l'heure prochaine de toutes ces persécutions et de harcèlements. Tout d'abord, attendez-vous au harcèlement politique, aux paperasseries administratives gigantesques et de très délicats problèmes financiers. L'aide fédérale et celle de l'État ne deviendront que en échange de concessions plus nombreuses. Attendez-vous donc ensuite à voir se développer chez les étudiants un esprit d'apathie presque inexplicable, puis de l'agitation et un manque de respect envers les autorités. Il y a déjà un manque de respect envers les professeurs. Et comment? Encore dernièrement, un gamin de 12 ans a dit à sa mère, « Si tu me renfiles pas 20 balles, je te fous une paire de claques. » Il y a des tas d'histoires de ce genre. Toujours plus. Troisièmement, attendez-vous à voir s'infiltrer dans le corps enseignant, carrément des professeurs qui ne seront rien d'autre, je vous le dis, rien d'autre que des outils inconscients dans les mains de Satan en vue de saper totalement les fondations de la foi et de l'autorité. Satan essayera d'arracher de force des mains des véritables hommes de Dieu la direction de ces écoles pour la placer dans celle de libéraux prêts à tous les compromis et qui ne feront rien du tout pour empêcher ces écoles de tomber dans l'agnosticisme. Voyez-vous, les dirigeants des institutions chrétiennes doivent se préparer pour le temps difficile qui vient, tant du point de vue financier que du point de vue spirituel. Ceux qui croient en la puissance de la prière, ils souffriront un peu moins, oui, un peu moins que d'autres. Ceux qui accordent la priorité aux questions spirituelles feront donc l'expérience du secours et de l'intervention directe de Dieu notre Père Céleste. Il est donc certain qu'il y a de l'agitation en vue sur le campus. La pression financière sera formidable. Seul un miracle permettra à certaines écoles de rester ouvertes, mais d'autres ne pourront pas tenir le coup, jamais. Hélas, chers amis, regardez bien maintenant ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui sautaient carrément de joie sont retournés à leur drogue et un mouvement rejetant Jésus est en train de se développer. De jeunes adorateurs de Satan, car il y a maintenant un peu partout des églises de Satan, des adeptes de l'occultisme qui sont en train de constituer le noyau d'un mouvement de haine pour Jésus dont le but principal est de harceler les chrétiens et de rejeter les prétentions de Christ. De ce mouvement de Jésus est en train de sortir un noyau solide de véritables croyants qui ont complètement rejeté leurs anciens modes de vie. C'est ce que j'ai fait. Ils ont abandonné leurs anciennes habitudes et se sont consacrés à une vie de service pour Jésus-Christ. Je ne dis pas, évidemment, vous le comprendrez, que c'est parce que je travaille comme quelqu'un qui aurait 50 ans à plus de 90 ans que je vais être un tout petit peu mieux sauvé. Ça, c'est un mensonge. Nous sommes uniquement sauvés par grâce. Mais il n'est pas défendu d'utiliser le temps qui nous reste pour servir le Seigneur. Je dis bien, heureusement que cela n'est pas défendu, même par la Sainte Bible. Donc mon message pour les vrais croyants est très clair et retentissant. Préparez-vous pour la persécution qui vient. Préparez-vous à rencontrer ces clubs de haine pour Jésus, même déjà à l'école. Dans de nombreux endroits, de jeunes chrétiens seront verbalement lapidés par leurs camarades pour avoir ouvertement pris position pour Jésus-Christ. Ce mouvement rejetant Christ sera dirigé par l'Antéchrist et Satan lui-même et propagé par ceux qui se sont adonnés à l'occultisme. Il ne sera pas jugé suffisant de considérer les vrais croyants comme des curiosités, mais il leur sera même craché dessus dans les couloirs des écoles et des lycées. Le jour peut donc arriver où leurs Bibles leur seront arrachées des mains et déchirées par une foule ricanante de moqueurs. Et le harcèlement deviendra alors si violent et si étendu que les jeunes chrétiens, ou bien ils se durciront comme de l'acier trempé pour tenir ferme. Ou bien, et je les comprends avec charité et compassion, mais j'en suis triste, ils s'écrouleront et renieront même leur foi. Évidemment, ça me rend très triste. Des évangélistes de Satan, pour la plupart des jeunes, prêchent déjà des sermons sur la puissance du diable et travaillent avec zèle afin d'en gagner beaucoup. Les tableaux ou les tablettes de Ouija, je ne sais pas si je le prononce correctement, les cartes de tarot, les horoscopes et les livres d'occultisme seront passés de main en main et dévorés par de jeunes qui seront avides de vérité. Fausse vérité, hélas. Nous allons donc payer le prix de ce que nous croyons. Ne pensez pas et jamais que les chrétiens ne puissent échapper totalement à la persécution qui vient. Oh non, ne croyez pas ça. Voyez-vous, votre persévérance sera donc très mise à l'épreuve. La persécution va donc venir sur nous de manière si dissimulée et si subtile que nous ne la reconnaîtrons pas au premier abord. Mais dès qu'elle commencera à se répandre, elle fondra sur nous avec des traits enflammés. Le monde ne croira pas ce qui arrivera parce que cela descendra un peu comme un vent de démence, comme un typhon sur la terre tout entière. Chers amis, un complément, j'ai bien répété, plus complet sur ce que vous venez d'entendre, se trouve donc sur internet www.bibleexplique.ch concernant toute la série des prophéties de la fin des temps vues bibliquement. Chers amis, avant de prier ensemble, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour vous encourager, c'est pas défendu, mais aussi pour votre édification personnelle. Écoutez bien, ô Jésus, comme nous t'aimons et combien nous voudrions te servir, vous, les enfants de Jésus-Christ, vous êtes appelés à faire ensemble avec et pour lui de très grandes choses. Vous serez les témoins de choses glorieuses et étonnantes. La vie elle-même est une plénitude de gloire. Ouvrez-vous toujours davantage à cette admirable vie que est la vie éternelle. C'est lorsque cette vie éternelle pénètre l'esprit, l'âme et le corps, que tout en vous est purifié, guéri, régénéré, en sorte que vous parvenez à une nouvelle jeunesse. Par vous ensuite, cette vie est donnée aux autres, pour opérer en eux aussi des miracles. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Saint Jean chapitre 17, verset 3. Apprenez donc, par un commerce de tous les instants, à le connaître toujours mieux. Entraînez-vous à demeurer journellement et à chaque instant conscient de sa présence, de cette présence qui ne saurait vous trahir. Faites moins de choses, mais accomplissez-en et achevez-en davantage. Faire n'est souvent que entreprendre. Or, accomplir, achever, ça, c'est mener à bien. Seul dur, la vie éternelle. Tout ce qui n'est pas accompli avec son esprit et qui n'émane pas de sa vie ne fait donc que passer. Au contraire, tout ce qu'on a accompli avec cet esprit qui est la vie, la véritable, ne saurait être détruite. Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. » Saint Jean, chapitre 10, verset 28. Ainsi donc, on trouve la sécurité et le salut définitif dans la vie éternelle. Établissez-vous toujours plus fermement par la pensée dans la réalité de cette sécurité et de ce merveilleux salut. Et maintenant, prions ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, nous devrions fléchir les genoux devant toi, que le cœur plein d'une vive et sincère reconnaissance. Nous devrions sentir toujours au fond de nos âmes les émotions de l'amour et de l'adoration qui te sont dues. Mais nous venons à toi sans besoin véritable de te rendre grâce, souvent même avec froideur. Nous demandons le bonheur à toutes les choses du monde et nous oublions qu'il n'est que en toi, ô notre Père céleste. Oui, c'est toi, Seigneur, qui as mis dans nos âmes cette soif de bonheur que rien ne peut complètement apaiser ici-bas où tout est fragile et périssable. En ce sentiment si impérieux, dans tout cœur d'homme devrait nous diriger vers toi, car toi seul es le bonheur. Ô Dieu, n'as-tu mis en nous ces désirs si puissants que pour nous livrer au trouble, à l'agitation, à l'inexprimable souffrance? Non, 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 car tu es pour nous le plus tendre des pères. Et dans ta miséricorde, tu as préparé la source d'eau vive où doit s'étanger notre soif. Jésus-Christ, ton divin Fils, a dit lui-même que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur du monde, a souffert et est mort pour nous, pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui, qui viennent à lui pour avoir la vie et qui reçoivent de lui grâce sur grâce. Voilà donc la source du vrai bonheur. Voilà le sentiment de notre réconciliation avec toi, Seigneur, ainsi que l'assurance de notre salut et d'une éternité de paix, ton amour pour nous et notre amour pour toi, tels que sont les éléments qui le compensent, et ce bonheur d'une pureté inaltérable dispose notre cœur à être plus satisfait de sa portion terrestre et le console des épreuves de cette vie rapide et stressante. Ô Dieu, accorde-nous à tous d'être véritablement heureux en toi. Et pour cet effet-là, attire-nous de plus en plus au pied de la croix, au pied de la croix de ton Fils bien-aimé. Amen. Et je te remercie particulièrement que tu as permis ce miracle où parfois je ne peux même plus parler, eh bien tu as permis que à plus de 90 ans, ma voix était suffisamment audible pour parler maintenant. Et chers amis, il y a plus d'un demi-siècle de cela, j'étais un jeune homme, j'avais enregistré en Angleterre, évidemment, j'avais enregistré des chants et j'espère que vous allez les entendre.
In his great mercy, he has given us new birth into a living hope. through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Because I live, ye shall live also.
Yeah.
Didn't recognize him. By the time they reached home, they felt much better. They said to him, "Abide with us." That prayer has been the prayer of millions.
Oh,